tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. J-5 avant la mobilisation des gilets jaunes, le gouvernement a 5 jours pour déminer. Il prépare une liste de mesures pour atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants. Les profs n'ont pas fait le plein, mais ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Si vous supprimez des postes, on ne va pas y arriver. Chez Force Ouvrière, les dirigeants ont eu la main leste sur les notes de frais. 388 000 euros à 13 l'an dernier, ça fait désordre. L'incendie meurtrier de Californie poursuit sa terrible progression. Le vent continue à souffler et la pluie n'est toujours pas d'actualité. Je ne suis pas un saint, dit Georges Tron, mais l'ancien secrétaire d'État clame son innocence face à deux ex-employés de sa mairie de Draveil qui l'accusent de viol. François Gabart, beau joueur, il a mené tout du long dans la route du Rhum avant d'être coiffé au poteau par Francis Joyon. Et puis notez qu'Emmanuel Dutheil recevra à 22h20 le directeur général de Blablacar qui vient tout juste aujourd'hui de racheter Ouibus à la SNCF.
Europe 1.
On est donc à 5 jours de la grande journée de mobilisation contre la hausse des prix du carburant et le gouvernement continue d'explorer les pistes qui permettraient d'atténuer l'effet de cette hausse. Emmanuel Macron l'avait évoqué la semaine dernière sur Europe 1. Une réunion s'est tenue à Matignon ce matin avec autour de la table les principaux ministres concernés, François de Rugy, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Il y a urgence, ce mouvement du 17 novembre, l'exécutif le redoute. Alors Anne-Laure Jumet, que va-t-il sortir de son chapeau pour tenter de calmer la colère des Français, quelles sont les mesures qui sont envisagées?
Première mesure, une extension de la prime à la conversion. Ce chèque de 1 000 à 2 500 euros pour échanger sa vieille voiture diesel ou essence contre un véhicule moins polluant. Eh bien, les conditions d'attribution vont être revues pour toucher davantage de bénéficiaires et notamment ceux qui font beaucoup de kilomètres. Même s'ils roulent avec des véhicules un peu moins anciens que ceux concernés aujourd'hui, ils pourraient bénéficier de cette prime. Jusque-là, le gouvernement visait 500 000 bénéficiaires. D'ici la fin du quinquennat, ce chiffre sera doublé. Deuxième paquet de mesures pour ceux qui ont du mal à payer leur facture d'énergie. Et là, on parle du chèque énergie, 200 euros l'an prochain en moyenne. Il permet aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'énergie ou leurs travaux de rénovation énergétique. Eh bien, lui aussi devrait toucher davantage de monde et notamment des personnes imposables mais à faible revenu. Son montant pourrait aussi être revu à la hausse. En revanche, le gouvernement ne distribuera pas de chèque carburant au plan national sur le mode de ce qui se fait dans les Hauts-de-France. Simplement, il soutiendra ce type de démarche en défiscalisant ces aides.
Les précisions d'Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. A noter que paradoxalement, les prix à la pompe ont fortement baissé ces derniers jours en raison du repli des cours du pétrole. 3 centimes de moins la semaine dernière pour le gazole, moins 5 centimes pour l'essence. Et puis c'est l'une des premières conséquences concrètes du mouvement des gilets jaunes qui ont donc prévu de bloquer les routes samedi. La Ligue de foot de Normandie annonce le report de toutes les rencontres prévues ce jour-là. Pas de foot non plus à quelques exceptions près en région Nouvelle-Aquitaine qui redoute elle aussi les difficultés que pourraient avoir les clubs à se déplacer. La grève contre les suppressions de postes à l'éducation nationale, suivie d'après les syndicats par près d'un enseignant sur deux dans le second degré et un sur quatre en primaire. Des chiffres beaucoup moins élevés selon le ministère de l'Éducation qui lui parle de 10% de grévistes seulement sur l'ensemble des personnels. On a rarement vu un tel grand écart. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les cortèges, les syndicats n'ont pas fait le plein. Ils étaient plusieurs centaines seulement à Paris. Parmi eux, Vincent, prof d'EPS à Vanves en banlieue parisienne, qui déplore la dégradation des conditions de travail.
On nous annonce encore des suppressions de postes, on ne peut plus faire des dédoublements de classe dans certaines matières, on ne peut plus assurer les options en seconde malgré des discours où justement on est censé nous donner les moyens. Et la réalité, c'est l'inverse. Moi j'ai commencé en 2000, au maximum on avait 30 élèves, c'est déjà assez dur, maintenant c'est 37, donc on ne peut pas s'occuper vraiment bien de tous les élèves. On fait passer les programmes, mais sans faire de l'individualisation comme on aimerait faire en fait. On ne peut pas leur donner ce qu'ils méritent en fait, même si on est impliqué à fond.
Vincent, enseignant gréviste cet après-midi dans la manifestation parisienne. Il était au micro Europe 1 de Claudia Beltram. Après le scandale des fichiers qui a coûté son poste à Pascal Pavageau, voilà que Force Ouvrière est secouée par une autre affaire d'ordre financier cette fois. Le montant des notes de frais des principaux dirigeants de la Confédération s'étalait ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. 388 000 euros quand même. Olivier Samin, on parle là de l'année 2017.
Oui, 388 000 euros de notes de frais répartis entre 13 dirigeants de FO, les 13 membres du bureau confédéral. Ça fait presque 30 000 euros en moyenne par personne l'année dernière. Alors ça correspond à quoi? Aux frais de déplacement, aux repas, aux frais d'hébergement pour les dirigeants qui n'habitent pas à Paris. La Confédération leur paye l'hôtel, voire pour certains le loyer de leur appartement. Ça en soi, ça n'est pas répréhensible. C'est la réponse aux contraintes de fonctionnement des grandes organisations, syndicats ou autres, où il faut aller voir les militants sur le terrain, participer aux différents congrès, représenter le syndicat dans les instances internationales, etc. Ce qui surprend plutôt, c'est le montant assez élevé de ces notes de frais, tout comme les niveaux de rémunération des principaux dirigeants de FO, 6 000, 7 000, voire 8 000 euros bruts, des niveaux sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres confédérations.
Olivier, quand même, dans l'ambiance actuelle, est-ce qu'on peut y voir des arrière-pensées, des règlements de compte peut-être à Force ouvrière ?
Eh bien, ce ne serait pas étonnant. Dans un communiqué publié cet après-midi, la direction de FO s'interroge sur l'origine de ces fuites et sur les intérêts qu'il y a derrière, alors que l'élection du nouveau secrétaire général de Force ouvrière va avoir lieu la semaine prochaine avec trois candidats qui s'affrontent, Patrice Clos, Christian Grolier et Yves Verrier. Dans cette élection, plusieurs fédérations de FO jouent gros, y compris en termes financiers. Il faut savoir que sitôt élu à la tête de Force ouvrière au printemps dernier, Pascal Pavageot avait commandé un audit pour faire la transparence sur la répartition de la manne au sein du syndicat. Et ça, si l'on en croit certaines sources internes, eh ben ça n'a pas plu à tout le monde.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. PSA va fermer son site de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, site sur lequel devrait s'implanter le futur hôpital Grand Paris Nord. Cette usine PSA emploie actuellement quelques 320 personnes. Il n'y aura pas d'impact social, promet la direction. Les hôpitaux Bichat et Beaujon doivent se rapprocher à l'horizon 2026 pour former un grand campus capable d'accueillir plus de 9000 étudiants et chercheurs. Le discours d'Emmanuel Macron devant l'UNESCO. Aujourd'hui, le président appelle à la régulation d'Internet. Et il annonce que la France et Facebook vont travailler ensemble pour lutter contre les discours haineux sur les réseaux sociaux. Le suicide de l'une des porte-paroles du mouvement des policiers en colère, on l'a appris ce soir, elle appartenait à la brigade anticriminalité des Yvelines. Elle a mis fin à ses jours chez elle avec son arme de service à Carrières-sous-Poissy. Elle aurait envoyé auparavant un message à des collègues de travail dans lequel elle indiquait ses intentions sans toutefois préciser les raisons de son geste. Cela fait trois semaines qu'il comparaît devant la cour d'assises. Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État et ancien maire de Draveil, s'est expliqué pour la première fois cet après-midi. Jugé pour viol et agression sexuelle, il a tout nié en bloc, Guillaume Bier.
Pendant deux heures, Georges Tron se défend ardemment à la barre. Les accusations, je les conteste, dit-il, mâchoire serrée. Il répète qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec son ancienne adjointe, ni avec les plaignantes. Le président l'interroge alors sur sa maîtresse et sur les propos compromettants qu'elle a pu tenir sur des écoutes téléphoniques. Georges Tron explique qu'elle était en colère d'avoir entendu n'importe quoi sur lui. Le président lui demande si sa relation avec elle se poursuit pour éviter qu'elle ne le charge. Ce n'est pas le cas, assure-t-il, ajoutant que c'est une situation incroyablement inconfortable d'en parler ici. Georges Tron en vient ensuite à sa passion pour la réflexologie plantaire. J'ai compris que c'était exploité contre moi. Ceux qui m'avaient vu comme un réflexologue m'ont ensuite vu comme un pervers. C'est insupportable. Vous n'avez pas perçu une ambiguïté, demande le président. Si je l'avais perçu, j'aurais été un peu couillon de continuer. Puis Georges Tron conteste point par point les témoignages défavorables de femmes de toutes parts, massées sans leur consentement. Le maire de Draveil se tend, l'homme politique prend le dessus et le doigt tendu, il lance à la cour. Passer trois semaines ici, entendre des gens venir m'insulter comme ils le font, c'est la pire période de ma vie.
Le compte-rendu de Guillaume Bier à la cour d'assises de l'Essonne pour Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal. Il est 22h09 et en Californie, les pompiers sont toujours aussi désarmés face à l'ampleur des incendies qui font rage ces derniers jours, notamment dans la commune de Paradise au nord de Sacramento. Le bilan provisoire est de 29 morts. Avant de rejoindre le correspondant d'Europe 1, Benoît Clerc, écoutez ce témoignage de Nicole. Elle est infirmière dans cette ville de Paradise qui aujourd'hui porte si mal son nom et elle a bien cru qu'elle allait mourir dans les flammes alors qu'elle devait évacuer en urgence les patients de son hôpital. Elle a dû se sauver à son tour. L'infirmière a pris sa voiture et elle s'est retrouvée sur la route, piégée par les flammes.
J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, je ne peux aller nulle part. Je vais mourir. Et il m'a dit, tu dois t'enfuir, tu dois courir. J'ai dit, ok. Je suis sortie de ma voiture et j'ai couru. Je n'arrivais plus à respirer. Je suis arrivée à un camion de pompiers, l'un d'eux m'a fait monter dedans et m'a mis une couverture anti-feu. Un des pompiers disait à la radio, on a besoin d'un soutien aérien, sinon on va y rester. On a besoin d'un soutien aérien. Le pompier a regardé son coéquipier avec un regard que je n'oublierai jamais. L'air de dire, on va mourir, on va périr dans les flammes. Ensuite, je me souviens juste que je suis arrivée à l'hôpital.
Le témoignage de Nicole, une infirmière de Paradise, jointe pour Europe 1 par Yasmina Katou. On vous retrouve, Benoît Clerc, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Californie. On vient de l'entendre, Benoît, la situation sur place reste apocalyptique.
Les pompiers de 6 États américains sont venus prêter main forte à leurs collègues californiens, exténués après plus d'une semaine de lutte contre les gigantesques incendies qu'ils n'arrivent toujours pas à maîtriser. Dans le brasier de Campfire, au nord de Sacramento, des flammes de plus de 30 mètres de haut détruisent toujours tout sur leur passage. Des équipes de médecins légistes fouillent les décombres pour tenter d'identifier de nouvelles victimes. Plus au sud, dans la région de Malibu, près de Los Angeles, les collines sont écorchées vives. Le nombre de maisons détruites a doublé en moins de 24 heures. La météo n'a n'arrange pas la situation, puisque les vents chauds venus du désert soufflent encore à plus de 80 km/h. Aucune amélioration n'est prévue avant la fin de la semaine. À Malibu, Benoît Clerc, Europe 1.
Encore une journée sous haute tension dans la bande de Gaza. Deux Palestiniens ont été tués ce lundi, trois autres blessés par des frappes israéliennes. Et ce soir, c'est le bâtiment de la télévision du Hamas qui a été détruit par l'aviation israélienne.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11. La SNCF a annoncé aujourd'hui qu'elle vendait sa filiale d'autocar Ouibus au géant français du covoiturage Blablacar. Créée en 2012, les pertes se sont accumulées pour atteindre 165 millions d'euros. Les deux entreprises avaient commencé à travailler ensemble lors des grandes grèves du printemps à la SNCF. L'une et l'autre avaient partagé leur plateforme pour répondre à la demande des voyageurs. Notez que Nicolas Brusson, le cofondateur et directeur général de Blablacar, sera dans quelques minutes l'invité d'Emmanuel Duteil sur Europe 1. Les véhicules les plus polluants seront interdits dans ce qu'on appelle le Grand Paris dès l'été prochain. Les élus ont voté aujourd'hui. Cette interdiction, Julien Pierce, concernera l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86.
Oui, dès juillet 2019, une zone à faible émission va être mise en place en proche banlieue. Concrètement, les 79 communes qui se trouvent au sein du périmètre entouré par l'A86 devront interdire la circulation du lundi au vendredi et ce de 8h à 20h aux voitures diesel mises en circulation avant 2001 ainsi qu'aux poids lourds avant 2006. Autrement dit, tous les véhicules ayant la vignette critère 5, soit plus de 700 000 voitures tout de même en Ile-de-France, qui dès juillet prochain ne pourront plus se rendre par exemple à Montreuil, Nanterre ou encore Versailles. Au même moment, la ville de Paris interdira la circulation aux véhicules critère 4, soit tous les diesels immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. La métropole du Grand Paris va en fait s'aligner progressivement sur le calendrier de la capitale avec pour objectif l'interdiction en 2024 de tous les véhicules diesel et en 2030 des véhicules essence. Cette mesure doit désormais être adoptée par les 79 communes concernées et cela pourrait bloquer à certains endroits, comme à Saint-Denis où le maire communiste a d'ores et déjà annoncé qu'il ne prendra pas d'arrêté pour instaurer cette zone à faible émission. Laurent Russier explique que 5300 véhicules dans sa commune sont classés critère 5 et que leurs propriétaires n'ont absolument pas les moyens d'en changer. De leur côté, les associations environnementales estiment à 5000 le nombre annuel de morts prématurées liées à la pollution de l'air en Ile-de-France.
Les précisions de Julien Pierce. Le foot et l'hécatombe chez les Bleus. Voilà maintenant qu'il faut remplacer les remplaçants. Alexandre Lacazette, qui avait été appelé pour pallier le forfait d'Anthony Martial, est lui-même contraint de renoncer pour le match de vendredi contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Il est remplacé par un espoir dont ce sera la première convocation, Alassane Pléa. A noter également le forfait de Paul Pogba, remplacé par Moussa Sissoko, et de Benjamin Mendy, remplacé par un autre Mendy, Ferland Mendy, convoqué lui aussi pour la première fois en équipe de France. Un forfait également en tennis, préoccupant puisque Richard Gasquet ne jouera pas la finale de la Coupe Davis à la fin du mois contre la Croatie à Lille. C'est un vrai coup dur pour la bande à Noah. Et puis sur la route du Rhum, la 7e tentative aura été la bonne pour Francis Joyon, victorieux la nuit dernière après un finish époustouflant. Un incroyable corps à corps avec François Gabart qui l'a coiffé au poteau, doublé dans la dernière ligne droite. 7 minutes et 8 secondes seulement séparent les deux navigateurs. C'est une belle revanche pour Francis Joyon à 62 ans. Et c'est une déception forcément pour Gabart qui était l'invité d'Europe 1 ce soir.
On peut pas gagner tout le temps et voilà et je préfère terminer deuxième avec cette belle histoire qu'on a pu vivre avec Francis, avec l'affrontement, avec tout ce qui s'est passé, que arriver premier sans avoir vécu des émotions fortes comme j'ai pu les vivre et avec des gros écarts à l'arrivée. Ça pour moi, ça n'a pas d'intérêt. La compétition, elle est belle quand elle est serrée, quand elle est dure, quand elle est terrible et c'est ce qui s'est passé là. Alors c'est dur, c'est terrible, mais c'est beau quand même et j'ai vécu un très beau moment. moment de course et je suis ravi, je suis très fier de ce résultat parce que je suis fier d'être arrivé déjà en Guadeloupe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trimaran massif a eu des avaries quand même majeures et importantes dès la première nuit. La course pour massif, elle aurait pu s'arrêter en Espagne. On a quand même pu continuer, on a pu traverser l'Atlantique, j'ai réussi à naviguer en bon marin pour essayer d'amener le bateau de l'autre côté.
Et alors ça, c'est fascinant.
C'était déjà chouette.
François Gabart, qui était l'invité du Grand Journal de Mathieu Béliard sur Europe 1. Et puis, on a appris ce soir la disparition d'une légende de la bande dessinée américaine. Stan Lee avait 95 ans et on lui doit notamment les personnages iconiques de Spider-Man, les X-Men ou bien Hulk. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Vous nous annoncez, Elena, une baisse des températures demain après avoir atteint des records cet après-midi.
Effectivement, Isabelle, on va perdre près de 10 degrés entre l'Alsace, la Lorraine, jusqu'en Saône-et-Loire et Savoie, où on était 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Belfort va ainsi passer de 20 à 12 degrés demain après-midi. Nancy, de 21 à 14. On aura 12 à 16 sur la moitié nord et 16 à 22 au sud. C'est toujours au-dessus des normales de saison. L'année 2018 devrait d'ailleurs exploser les records de douceur en France comme sur le reste de l'Europe. Moins chaud et moins de pluie demain. Après avoir fait du surplace sur les régions de l'Ouest, la perturbation pluvieuse qui nous concerne depuis deux jours bascule en enfin, vers la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, Bourgogne, Lyonnais, jusqu'au Languedoc-Roussillon demain matin. Les pluies faibles vont s'espacer dans l'après-midi, notamment dans le sud, et quitter le nord-est où vous profiterez déjà du retour d'éclaircies. Autant vous dire que ça ne résorbera en rien les problèmes de sécheresse. Sur l'extrême sud-est, des nuages le matin, lumineux l'après-midi. Et puis sur une grande moitié nord-ouest, du brouillard le matin, des éclaircies là aussi l'après-midi. Ce temps très automnal finalement, brouillard le matin, éclaircies l'après-midi, devrait nous concerner pour tout le reste de la semaine. Du brouillard qui aura parfois bien du mal à se lever, notamment dans le Val-de-Saône. Les températures vont fraîchir dans la partie nord, elles resteront douces au sud.
La météo, signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de Blablacar qui vient de racheter Ouibus à la SNCF. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse.
La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente Top à Wall Street. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonsoir Didier Hamot.
Bonsoir Isabelle.
Rédacteur en chef de boursier.com. Alors Didier, Wall Street débute la semaine en net repli dans un marché assez calme.
Calme parce que c'est la journée des vétérans aux États-Unis. Alors ça explique ce calme très relatif comme à Wall Street puisque les marchés baissent nettement. Vous l'avez dit, oui, un Dow Jones en repli de 2,3% quand même, 25 387 points. Un Nasdaq qui recule de 2,78%, 7201 points. Le rebond du pétrole en matinée après l'appel de l'Arabie Saoudite a limité la production de brut à tourner court. On a même une rechute spectaculaire ce soir. Le baril perd plus de 2% encore, 58,80 $. Ça nous ramène sur les niveaux du printemps dernier. Donald Trump ce soir a déclaré espérer que l'OPEP ne réduira pas sa production. Ça explique donc cette rechute qui maintenant monte la baisse à 24%, quasiment 24% de baisse depuis un mois, depuis le début du mois d'octobre. Ça fait beaucoup et ça va sans doute se répercuter
à la pompe.
Oui,
pas dans l'immédiat, c'est
non,
ça.
Il y a toujours un petit délai. Voilà, mais là ça devient vraiment très spectaculaire puisque cette rapide baisse du pétrole, on ne l'avait pas vu depuis les années 80. C'est-à-dire qu'en un mois, on a perdu quasiment un quart du prix du baril. Sur les autres indices, on a donc une forte baisse du Nasdaq ce soir et on a Apple en particulier qui perd 5%. Là, le groupe aurait demandé à certains de ses sous-traitants de réduire la voilure. Donc Apple chute de 5% quand même. On est nettement sous les $200. Sous les $200 à $194. Et puis Microsoft aussi suit le mouvement, moins 2,4%. Amazon, moins 4,4%. Toutes les valeurs de technologie rechutent. Cisco, moins 3%. Et sur les devises, l'euro recule assez nettement, 1,1240 face au billet vert.
Et la Bourse de Paris aussi a perdu du terrain.
Oui, alors du coup, ça a suivi le baril. En matinée, c'était plutôt la hausse qui l'emportait avec ce rebond, on va dire, du brut. Et puis finalement, on perd 0,93% ce soir, 5059 points. La baisse s'est accélérée dans l'après-midi avec cette rechute du pétrole. Total, malgré un accord accord de concession dans le gaz à Abu Dhabi a reculé de 0,5%. Et puis CGG a perdu 5%. Quelques baisses aussi notables sur Eramet, moins 5%, Natixis, moins 4%, ou Iliad, moins 4% aussi.
Exception du jour, Didier, le titre Cybergun qui a fortement progressé.
Le spécialiste des répliques d'armes a bondi littéralement de 90%. On est remonté à 0,89€ après l'accord obtenu pour finaliser un partenariat avec un grand manufacturier, un armurier. Donc de quoi réveiller le dossier en fanfare. Cybergun plus 90% ce soir. Sur les autres places financières, ça baisse un petit peu partout. Donc Francfort moins 1,7%, Bruxelles moins 0,9%, Madrid moins 0,6%, Milan moins 1% et le CAC 40, donc on le rappelle, en baisse de 0,9%, 0,93% exactement. 5059 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com. Et à 22h21 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'invité Echo avec vous Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le directeur général de Blablacar.
On est tout de suite avec Nicolas Brusson, c'est le cofondateur et directeur général de Blablacar. C'est en effet, hein, vous en parliez Isabelle Millet dans votre journal, l'information économique de la soirée. Blablacar va racheter Ouibus à la SNCF, mais pourquoi donc? On va se poser la question tout de suite, hein, une interview réalisée notamment grâce à François Geffrier. Alors Nicolas Brusson, première question, toute simple. Pourquoi s'intéresser à Ouibus quand on est le patron de Blablacar?
Blablacar, on s'est déjà étendu dans 22 pays avec une offre de covoiturage longue distance. On a commencé à explorer l'intégration des bus, en fait, d'abord dans les pays émergents. Donc on a commencé avec la Russie. On s'est rendu compte que ça marchait très bien. On a expérimenté ça lors des grèves en France. On s'est aussi rendu compte que ça marchait très très bien. Et que finalement, cette complémentarité entre le covoiturage longue distance et le bus longue distance était assez naturelle pour nos membres. Et donc l'accélération de ça en France, c'était naturellement de se rapprocher de Ouibus, de les contacter, et ça a amené à ce rachat.
La SNCF ne lâche pas totalement Ouibus, hein, elle sera encore actionnaire maintenant de Blablacar.
Il y a un rachat où on rachète 100% de Ouibus, donc Ouibus devient une filiale complètement intégrée dans Blablacar, qu'on va opérer et qu'on va faire grandir. Il y a une deuxième nouvelle qui est une levée de fonds. Donc on a aussi annoncé aujourd'hui une levée de 101 millions d'euros. Dans cette levée de fonds, il y a des investisseurs existants. Il y a aussi la SNCF. Donc la SNCF rentre de manière minoritaire au capital de Blablacar par l'intermédiaire de cette acquisition, mais aussi de cette levée de fonds.
C'est quoi finalement? C'est une manière de renouveler le modèle de Blablacar?
C'est une manière de se diversifier et d'accélérer. Mais on a communiqué récemment, en fait, sur nos chiffres et notre croissance. Le covoiturage aujourd'hui, donc Blablacar, hein, à l'échelle globale, on parle plus de 50 millions de passagers, avec des croissances de plus de 40%, et une société qui est, depuis le début de l'année, profitable. Donc en fait, pour nous, c'est plutôt une histoire d'accélération, où on se rend compte que pour aller plus loin, ce qu'on veut offrir, c'est vraiment une mobilité partagée routière, complète. Et très rapidement, on se rend compte que si on veut faire ça à une échelle européenne sans le bus, c'est compliqué. Et on veut avoir une offre de bus en plus de l'offre de covoiturage. Donc c'est plutôt pour nous une dynamique d'accélération que se dire que le covoiturage est fini. Par ailleurs, on a lancé récemment, enfin cette année aussi, tout un nouveau service de covoiturage domicile-travail qui s'appelle BlaBlaLines, qui est aujourd'hui en explosion et qui a, au bout de 6 mois, 400 000 membres qui se sont inscrits. Donc le covoiturage est encore, je pense... à ses débuts, en réalité.
Le but, c'est quoi? C'est de profiter de la force des autres, de la force de la SNCF pour vous et de la force de Blablacar pour la SNCF?
Il y a une partie qui est une redistribution des cartes par cette acquisition où finalement, tout ce qui est routier, que ce soit le covoiturage ou le bus, on va le trouver sur Blablacar. Ensuite, SNCF va aussi, pour la première fois, à partir de la fin de l'année et de 2019, intégrer des offres de covoiturage et les combiner sur SNCF. Donc sur SNCF, on y va principalement pour le train, mais on va pouvoir trouver des offres de covoiturage, des offres de bus, on va combiner tout ça. Et sur Blablacar, il y aura toutes les offres, j'ai envie de dire, route. C'est-à-dire tout ce qui est covoiturage, bus et toutes les combinaisons possibles et imaginables à terme de bus plus covoiturage.
Pour nous, consommateurs, qu'est-ce que ça va changer? Comment on va pouvoir bénéficier d'une offre combinée entre la SNCF et Blablacar?
À partir de 2019, il y aura le covoiturage et, petit à petit, combiné du train plus bus, du train plus covoiturage. Mais Blablacar reste le point d'entrée sur tout ce qui est routier, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein, évidemment, autour du covoiturage. Mais là, par contre, sur la partie Ouibus, la demande Ouibus va migrer sur Blablacar au fil des prochains mois et des prochaines années.
Alors, je pense que vous imaginez un petit peu ma question, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Est-ce qu'au bout du bout, on va payer plus cher ou on va payer moins cher?
Finalement, les tarifs ne vont pas changer, c'est-à-dire les tarifs des bus et de covoiturage n'évoluent pas là-dedans. À terme, en fait, il est gagnant parce qu'il va y avoir une optimisation du réseau de notre côté qui fait que finalement, on va opérer des autocars, des bus, quand ça a du sens d'opérer des bus et que les taux de remplissage des bus peuvent être élevés, ce qui nous permet de baisser les prix. Et on opérera du covoiturage qui est déjà très économique. Enfin, c'est beaucoup moins intelligent d'opérer un bus. Donc nous, notre vision, c'est vraiment, je veux dire, un réseau bus plus covoiturage optimisé pour que le taux de remplissage des voitures et des bus soit maximal. Et en faisant ça, on devrait être capable à terme d'offrir des prix encore meilleurs que ce qu'on voit aujourd'hui sur l'un ou sur l'autre des deux sites.
Mais est-ce que ce n'est pas dangereux quand même pour vous, hein, du côté de BlaBlaCar, parce que Webus perdait encore très récemment énormément d'argent?
Jusqu'à là, ils étaient dans une phase de création et d'accélération. Donc, il faut quand même se rappeler que Webus a été créé en 2015, donc il n'y a pas très longtemps. Qu'aujourd'hui, Webus, c'est entre 40 et 45% des parts de marché du bus en France. C'est une marque très connue. Ça s'est fait en très peu d'années. Donc, évidemment, il y a une phase d'investissement. Et dans cette phase d'investissement, Webus n'était pas et n'est toujours pas profitable. Nous, c'est une histoire qu'on connaît bien. BlaBlaCar, on a mis du temps, parce qu'on a pris une vision beaucoup plus globale. Mais entre la création de BlaBlaCar et la première année de rentabilité qui est cette année pour nous, il s'est passé 10 ans, enfin 12 ans pour être exact. Donc en fait, c'est des cycles, je veux dire, d'innovation et de création de marché qu'on comprend. Là, on rentre avec Webus dans une aventure plus large parce que notre ambition, c'est de prendre Webus, l'intégrer à une offre complète routière sur BlaBlaCar, mais aussi de l'étendre partout en Europe. Donc on va commencer à étendre des lignes vers l'Allemagne, vers le Benelux, vers l'Italie, et aller plus loin avec une vision européenne qui est finalement l'ADN aujourd'hui et la force d'un BlaBlaCar.
Le but, c'est quoi? C'est de tuer aussi les autres concurrents, comme par exemple EasyLines ou Flixbus?
Aujourd'hui, la taille du marché, le potentiel du marché, c'est la voiture individuelle. Donc si on regarde les trajets de 100 à 600 km, 80% de la mobilité de 100 à 600 km se fait sur des voitures et des voitures non partagées. Le reste se fait sur du train, du bus ou du covoiturage. Donc aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que notre mission, c'est plutôt d'aller convaincre des conducteurs qui conduisent seuls de partager leur voiture ou de devenir passagers dans un covoiturage ou dans un bus. Ensuite, on va se retrouver sur la partie bus qu'on combine avec du covoiturage. Évidemment, on va se retrouver en face d'acteurs comme EasyLines en France, comme Flixbus sur l'échelle européenne. Et j'ai envie de dire, sur cette partie que bus, oui, on va être en concurrence avec différents acteurs nationaux ou européens. Mais l'idée, c'est, je veux dire, le côté force de frappe dont vous parlez, l'idée, c'est d'offrir quelque chose de beaucoup plus attrayant aux passagers et finalement pouvoir trouver du BlaBlaCar et du bus en masse, hein, c'est-à-dire Webus, c'est quasiment la moitié du marché de bus en France. On pense que c'est une offre excellente pour les passagers, pour les consommateurs, parce qu'on y trouve tout, qui nous donne un avantage concurrentiel fort par rapport aux, j'ai envie de dire, aux pure players, comme on dit, que sont EasyLines ou Flixbus.
Merci beaucoup Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar. Je rappelle cette information, c'est celle de la soirée en matière économique. BlaBlaCar va racheter Webus à la SNCF. Merci beaucoup à François Geffrier pour nous avoir permis de réaliser cette interview. Et à demain, 22h20 sur Europe 1.
À demain Emmanuel Dutheil, et cette interview, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur europe1.fr. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant?
La Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises, vous présente les unes du lendemain. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Carburant, qui sont les gilets jaunes? S'interroge Libération en une. Spontané au départ, le mouvement contre la hausse du prix de l'essence, en partie récupéré par l'extrême droite, bouscule syndicats et partis traditionnels. Tandis que pour le Figaro, face aux gilets jaunes, Macron cherche la parade. Gilets jaunes, le jeu explosif de la colère, c'est le titre du journal L'Opinion qui rappelle qu'une réunion s'est tenue ce matin à Matignon pour régler les détails des mesures censées apaiser le mécontentement des automobilistes. Des bonnets rouges aux gilets jaunes, une colère noire menace à nouveau l'exécutif sur la question fiscale. Comme leurs prédécesseurs bretons, il y a 5 ans, les automobilistes qui appellent à bloquer le pays samedi prochain donnent des sueurs froides au gouvernement. Celui-ci n'en est pourtant pas à sa première mobilisation sociale. Sauf que ce mouvement du 17 novembre exprime un ras-le-bol brut et sans phare, né anarchiquement sur les réseaux sociaux et hautement incontrôlable. Et dans son édito, Nicolas Bétou enfonce le clou. Les gilets jaunes ne le savent sûrement pas, écrit-il, et probablement s'en moquent-ils éperdument. Ils ressemblent dans leur colère au bourgeois gentilhomme de Molière. Ils s'énervent contre tout, à cause de tout. Le prix du gazole, les taxes, les impôts, leur pognon, celui des autres, les élites, les puissants, le pouvoir, contre les adversaires de l'automobile, contre Paris qui méprise la province, contre l'administration, les lois, les élus, contre tout. À commencer par le gouvernement. Les syndicats n'ont rien vu venir, les partis politiques d'opposition ne savent pas comment s'y prendre pour être dedans tout en étant dehors. Et elle n'a pas de leader, c'est ce qui la rend si dangereuse pour le pouvoir. Le gouvernement a pourtant négligé ce risque, dit Nicolas Bétou. Il n'a pas vu que cette jonction des colères, très différente des coagulations traditionnelles entre grévistes et étudiants ou lycéens lors des conflits sociaux, était une lourde menace. Il n'a plus aucune chance d'éviter les blocages. Si la mobilisation est forte le 17 novembre et débouche sur d'autres mouvements, alors elle sera déterminante. Emmanuel Macron risque en effet de se trouver entravé pour longtemps dans son action de réforme. Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les gilets jaunes tiennent peut-être en main le quinquennat sans le savoir. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Ravie de vous retrouver.
Moi aussi, on est lundi et on se retrouve à 22h58 pour un point sur l'information.
À tout à l'heure.